Alors, vous avez sûrement reconnu des bouts de choses qu'on a entendues par ailleurs, hein, pour ceux qui n'ont pas complètement fini la rédaction de leur définition de secondarisation. Elle n'a pas dit le mot, elle.
Non.
Hein? Elle a dit, je préfère m'occuper des choses d'abord, puis après le mot oui. Il viendra quand on aura compris. Hein? Elle a illustré d'une autre façon un joli débat qu'on a eu. Est-ce que le mot précède la chose ou est-ce que la définition vient... Quand on a fini de comprendre, on peut mettre le mot dessus. Voilà. Ouais, si tu veux. Quelqu'un veut...
Écoutez, c'est très, très, très intéressant, mais ça pose aussi beaucoup de questions.
Oui.
Hein. La première sur une idéologie. Mmh. Hein. Ce que vous appelez des langages du maître, on parlera peut-être aussi du langage de la discipline scolaire enseignée, hein, qui exige les mêmes résiliences. Il y a deux écoles, me semble-t-il. Il y a celle qui cultive ces registres en disant c'est la diversité des registres dits d'intentionnalité qui permettra à l'élève de cultiver, on va dire, son activité. D'autres qui priorisent des registres par rapport à d'autres. Bon, alors c'est un débat théorique. Bon, il semblerait dans les pratiques, en tout cas, que la diversité, en tout cas en éducation prioritaire, et la culture des différents registres, qu'on va dire de manière très simple, hein, il y a des gamins qui sont dans le produit de la tâche, il y a des gamins qui sont dans le but de la tâche, et il y a très peu de gamins en éducation prioritaire qui sont dans l'enjeu de la tâche. Bon, j'ai cru comprendre que vous demandiez aux enseignants de clarifier ça, qui est pour l'élève, c'est j'ai fait, c'est pas j'ai pas fini, c'est pas j'ai réussi, c'est pas j'ai pas compris. Hein, c'est des bonnes choses différentes. Alors il me semble que je tire deux conclusions de ça. Hein, deux conclusions de ça. C'est que dans la salle, il y a des personnels qui sont attachés à travailler sur les liaisons et les déliaisons, notamment les passages école-collège. Voilà. Il me semble que vous nous donnez là à penser quelque chose de très important. C'est que s'il y a des résiliences, alors aussi il faut se mettre de part de l'élève. Il n'est pas idiot, quoi.
Il n'est pas idiot.
Hein. Donc, on peut penser que nous, quand nous étions jeunes enfants, nous étions opposés exactement aux mêmes contradictions. Enfin, même si on n'est pas très futé, on a quand même conservé un dépassement. Donc, je crois qu'en rare, notamment, les professeurs supplémentaires qui sont attachés à faire des interventions dans les deux degrés, premier et deuxième degré, sont très concernés par cela. Une deuxième chose... On peut savoir ce que vous dites sans être incapable de le mettre en œuvre. Et c'est tout à fait normal, quand on enseigne, on ne passe pas à ça. Sinon, on perd le truc. Et la troisième chose, me semble-t-il, c'est que vous donnez une définition extrêmement intéressante du cycle, de la compétence et de l'adaptation. Alors, une petite question qui reste pour ça, pour moi, toujours en suspens. Est-ce qu'il y aurait en éducation prioritaire des élèves dont les schémas structurels interdiraient le cheminement de l'un à l'autre.
Un autre bout avant qu'elle réponde.
Oui, je vais répondre.
Bon, alors elle répond.
C'était en lien ? Hélas, je crains que oui. Ouais. Mais alors, là où on va s'entendre, c'est que ça serait comme un produit de l'école. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un certain temps, ça deviendrait un empêchement à penser. Mais vous voyez, ben, voilà. Mais ça fait mal hein, qu'on se dise ça. Mais bon, voilà, on se le dit entre nous, les portes sont fermées. Mais effectivement, penser, c'est une prise de risque. C'est voilà, mettre en langage, mettre en mots sa pensée, s'autoriser à penser, c'est une prise de risque. Et moi, je travaille un peu avec des enfants du côté de la pathologie du langage. Et quand je demande à des gamins de fin de quatrième... Comment t'as fait pour répondre telle chose ? Que la chose soit juste ou pas, d'ailleurs, peu m'importe. Et il y a des gamins de fin de quatrième qui me répondent, c'est pas moi, c'est ma main. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, en gros, cette chose-là, elle vit sa vie sans moi. Et voilà, il y a un refus, vous voyez, mais ce qu'ont très bien montré un Rochex, etc., dans leurs écrits, c'est-à-dire que, finalement, je ne me suis jamais construit comme un être pensant, digne d'être écouté, digne de dire et digne d'être écouté. Mais ça, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là ? Voilà. C'est-à-dire que les maîtres, ils ressentent, tout à l'heure on parlait du bon sens. Le bon sens, c'est culturel. C'est-à-dire que les maîtres de petite section, dès le premier jour, ils sont capables de dire « Je sais qu'un tel, un tel, un tel, un tel, il n'apprendra pas à lire et à écrire. » Alors, On peut se dire c'est monstrueux, mais non, les maîtres intuitivement, parce que l'intuition c'est un moteur de connaissance, c'est-à-dire ils reconnaissent les gamins qui n'ont pas les outils. Le scandale, il n'est pas dans le fait de dire ça, il est plutôt pour moi dans le fait de comment ça se fait qu'au bout de 3 ans d'école, on n'ait pas réussi à déplacer ça. Vous voyez, c'est-à-dire que le gamin qui est rentré en début de petite section, effectivement, il n'avait rien pour apprendre à lire et écrire, et au bout de 3 ans d'école maternelle, il n'a pas construit quoi que ce soit pour apprendre à lire et écrire. Pour moi, le, vous voyez, alors c'est compliqué, hein, mais je ne sais pas si je réponds exactement à votre question.
On ne va pas juste engager un débat entre vous deux, mais ça pose quand même aussi directement. Tu décris l'expertise de l'enseignant dans sa capacité à faire du langage quelque chose de, qui soit une arme atomique au service du développement de l'enfant. Bien sûr, tout le monde sait que ce discours positif et optimiste, on voit tous les jours que, et un certain nombre de collègues aujourd'hui, regardant de très près ce qui se fait en maternelle, et Véronique, elle prend que la chose positive de ce qu'on peut voir en maternelle. On sait bien aussi que ces enjeux-là, ils sont peut-être pas toujours assez partagés par tous les enseignants ou les enseignantes qui y sont, et que j'ai vu il y a pas longtemps un papier qui disait défendre et transformer la maternelle, parce que voilà, on sait bien que ces choses-là ne vont pas de soi.
Je vais être caricatural. Mais votre intervention m'a provoqué des questions, en fait. Enfin, voilà. À un moment donné, vous avez dit la maîtresse attend autre chose. La question que je me pose et que je vous pose, mais si elle dit ce qu'elle attend d'eux, est-ce qu'ils vont apprendre pour autant ? C'est-à-dire que la question sous-jacente, c'est est-ce que ce que vous avancez, je ne sais pas, mais est-ce que ce n'est pas un déplacement de l'objet, en fait ? C'est-à-dire que vous faites un glissement. Est-ce que ce ne sont pas plutôt les conditions qui vont être mises en œuvre au cours, justement, des années d'école maternelle, des interactions et ainsi de suite, des dispositifs qui feront progressivement accéder les enfants et les élèves à des manières de penser. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, enfin, j'ai juste l'impression dans ce que vous avez dit par moment, mais c'est vrai que vous alternez. Donc j'ai du mal à saisir parfois. L'impression, pour moi, j'appelle ça la transparence, quoi. C'est parce que c'est transparent. Imaginons, je suis en maths, je vais dire aux élèves, ben voilà, je vous mets en situation et aujourd'hui, vous allez apprendre avec plusieurs séances ce que c'est que diviser, que ça va être une condition suffisante pour qu'ils apprennent à diviser.
Alors là, c'est un principe théorique qui n'est pas du tout le mien, c'est-à-dire que le langage, c'est tout sauf transparent. Tout sauf transparent. Le langage, c'est une construction du monde, une représentation du monde, ça rencontre d'un point de vue, d'une représentation, avec des S d'ailleurs. Et donc, à partir du moment où je mets en mots, je ne mets pas en mots autre chose, je le mets en mots de cette manière-là, et mon langage, il donne à entendre quelque chose qui, d'ailleurs, fait réflexion pour moi. C'est-à-dire, c'est quand je le dis que j'ai accès à ma propre pensée. Et que le maître, une fois qu'il s'entend dire telle consigne, il réalise que c'est comme ça qu'il pense ce qu'il va mettre en place avec les élèves. Et 2 minutes avant, il n'en avait pas la conscience. C'est-à-dire qu'on voit bien comment langage et pensée, ça fonctionne ensemble. Il n'y aurait pas une espèce de pensée à l'intérieur de soi. Enfin, j'y crois pas, ça, qui existerait sans les mots. Alors, effectivement, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas du tout de transparence du langage, mais le fait... Alors, la question, par exemple, de l'exemple avec le calendrier. Pour moi, demander à des enfants de 4 ans, on peut toujours le faire, comment s'appelle le calendrier ? C'est pas une activité intellectuelle. C'est pas la chose la plus intéressante du monde. On peut le faire, ça prendra 10 secondes de savoir s'il y a un gamin qui connaît le nom, il va le dire pour les autres, et puis les autres, 2 secondes après, ils l'auront oublié, il y en a peut-être un qui s'en rappellera, mais c'est pas très important. Là, pour ça. En revanche, demander aux enfants, à leur avis, à quoi peut servir cet objet, ça, c'est hyper intéressant. Vous voyez ? Et c'est-à-dire, là, on est prêt à entendre tout ce que les gamins vont, comment les gamins traitent cet objet par le langage, ce qu'ils en disent, et comment, vous voyez, les autres reprennent une hypothèse faite par un enfant. Il y a des petits paquets avec des numéros, donc ça va dire les numéros, combien il y a d'objets dedans. C'est absolument hallucinant. Là, ils parlent et ils pensent ensemble, les enfants. Mais là, le maître, il ne peut pas savoir deux minutes avant ce qui va se passer. Et le problème de la classe, c'est toujours d'être capable de... Il faut tenir son objectif et en même temps lâcher parce que on ne peut pas penser à leur place et que c'est cet espace-là qui leur permet de faire émerger à la fois la pensée collective et la pensée singulière. Et là, je trouve que dans cet exemple, on voit bien comment les deux coexistent. Et à un moment, ces deux pensées, elles coexistent, mais en dehors de la maîtresse qui, vous voyez, n'a toujours pas dit sa chose à elle. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Mais c'est vrai que le langage transparent, alors là, j'y crois pas du tout, du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle de l'objet, mais en parlant de l'objet, on ne dit même pas tout de l'objet. On pourra, comme disait l'autre, tenter d'épuiser par la description un objet, ça n'existe pas. Hein, et donc, le langage, il met de côté énormément, énormément, énormément de choses. Mais ça permet de construire l'attention conjointe et de se dire, pour l'instant, c'est de ça dont on parle ensemble. Et ça empêche peut-être de penser d'autres choses à ce moment-là. Mais bon, c'est la classe, voilà.